Christiane, vous avez quel âge?
Je vais avoir 86 ans au mois d'octobre. Moi, chez nous, je tombais tout le temps. Alors, j'avais un bracelet, vous savez, pour appeler la nuit. Mes enfants étaient partis. Je les appelais des fois, mais c'est embêtant, ça te dérangeait les enfants tout le temps. Et un jour, je me suis dit, faut que je demande une maison de retraite. Moi, j'ai décidé parce que ce n'était pas une vie pour les enfants.
Plus de 700 000 Français vivent actuellement dans un établissement pour personnes âgées et dépendantes. Et tous ne sont pas, comme Christiane, en état de faire leur propre choix de vie. En moyenne, on rentre en EHPAD à l'âge de 85 ans pour y passer les dernières années de sa vie. Ces établissements, il y en a environ 7 000 en France, dont 3 000 gérés directement par le secteur public, ont connu en début d'année un mouvement de grève totalement inédit. Les salariés, souvent rejoints par leur directeur, réclamaient plus de moyens, afin bien sûr d'obtenir une meilleure rémunération, mais surtout afin de pouvoir mieux exercer leur indispensable métier.
Il y a souvent un sentiment de non-reconnaissance de notre travail, évidemment, parce que la reconnaissance passe non seulement par les compliments de nos résidents, la joie de vivre qu'ils peuvent avoir, mais ça passe aussi par notre salaire.
Les conditions sont telles que les établissements peinent à recruter du personnel et que selon l'assurance maladie, le taux d'accident du travail et de maladie professionnelle est supérieur dans le secteur du soin à la personne à celui observé dans le bâtiment. Pourtant, les besoins sont énormes. D'ici à 2060, un tiers de la population française aura plus de 60 ans.
Que voulez-vous? La vieillesse. On peut pas toujours être jeune.
EHPAD, la vie malgré tout, c'est un reportage de Géraldine Allot avec Clémence Bonfils à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Il est un peu plus de 7 heures et nous arrivons à la résidence de la Poterie. C'est un bâtiment de 2 étages, assez moderne. La peinture est assez défraîchie, mais il y a des petites terrasses pour les résidents avec des pots de fleurs et le tout est assez joli.
Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Christine, aide-soignante, dans l'EHPAD depuis 15 ans. Donc j'ai commencé ce matin à 7h. Donc on commence par les toilettes, voilà, on réveille en douceur les résidents. Le matin on se partage les tâches. Mes deux collègues sont en binôme, qui font les personnes les beaucoup plus dépendantes. Donc là moi ce matin je me suis occupée des personnes qui ont encore un peu d'autonomie on va dire.
C'est quoi ces bips qu'on entend souvent?
Ça, c'est un système d'appel que chaque résident peut nous sonner, en fait. Donc, ils ont un boîtier d'appel dans leur chambre, ou des sonnettes, ou des médaillons.
Donc, à chaque fois que ça bip, ça voilà. Veut dire qu'un résident
Et
peut vous
tant
voir.
Tant qu'on n'a pas à quitter, ça bip tout le temps. Donc, au bout d'un moment, voilà, vous êtes obligé d'y aller, quoi. Donc, on va aller voir le résident qui sonne. Voilà. Il y a une chute. Donc du coup, quand il y a une chute, on a un bouton spécial jaune qui est assistance. Donc tout le personnel vient pour relever le résident ou s'il y a un malaise.
Vous vivez au rythme de ce petit bip-bip là, des résidents qui vous appellent.
Voilà, ouais. Oui. Bah, c'est notre outil de travail, on ne peut pas l'oublier.
On vous appelle pourquoi en général?
Alors, soit quelquefois pour les mises aux toilettes. Ils ont besoin de parler aussi, d'écoute. C'est un moyen de communication, en fait. Ils s'ennuient, donc du coup, il suffit que, ils ont envie de parler de quelque chose. Et puis, la sonnette, c'est un prétexte. Donc, quelquefois, c'est juste pour demander l'heure. Qu'ils ont juste l'horloge devant eux, mais c'est un prétexte aussi pour une demande d'écoute, en fait. Ils ont besoin de parler de, soit de leur angoisse ou même de leur famille, qu'ils sont heureux, qu'ils ont vu la veille la petite fille ou le petit-fils. Ils ont besoin de partager ces choses-là, en fait.
Quatre aides-soignants sont présents au petit matin et à quatre, ils doivent réveiller, lever, laver 53 résidents.
Ça porte du monde là ce matin.
Il fait beau.
Il fait beau, bien sûr qu'il fait beau. Un gant de toilette. Tac.
Donc vous faites la toilette au gant le matin?
Tout à fait.
Et la douche, c'est...
Alors ici, en fait, il y a une organisation très particulière. Ils ont tous une douche par semaine. Tous. Et c'est vrai qu'au quotidien, par contre, on ne fera pas une toilette complète au lit. On fera une petite toilette.
Hop.
On a une population qui ne se lavait pas non plus tous les jours. Donc ça peut s'entendre. Tous les résidents, on les réveille tous dans le sens où les personnes âgées s'endorment au petit matin, en fait. Ils s'endorment vers les coups de 5 heures. Pas la totalité, hein. Il y en a qui dorment très bien, je dis pas. Mais tous ceux qui ont un minimum d'angoisse, un minimum de pathologie, ils s'endorment au petit matin. Et des troubles du sommeil en EHPAD, en veux-tu, en voilà. Hein.
C'est lié à quoi, selon vous?
C'est une population qui était très médicament. Vous avez pas vu la pharmacie en bas? Ça vous a pas choqué? Qu'il y a une boîte par résident, et dans chaque boîte, il y a au moins une vingtaine de boîtes de médicaments. Après, c'est vraiment une génération. J'ai un souci à tel endroit, il me faut un médicament. J'ai mal à la tête, il me faut un effaralgan. On commence à prendre des somnifères, on s'arrête plus à prendre des somnifères. Alors, il faut faire très attention au lit, parce que, au final, on aura pu passer le nombre de temps qu'on veut avec le patient. Le bichonner comme vous voulez, le prendre soin. Mais si le lit est mal fait, attention. C'est du paraître, mais du paraître important.
Pourquoi c'est important?
La famille, elle arrive, le lit est mal fait, ils pensent que c'est du grand n'importe quoi. Par contre, si le lit est fait bien au carré, nickel, on va pas aller trop voir comment on s'occupe de papa, puisque ça a l'air bien.
Allez, hop. Mon café, mon café, mon café.
Est-ce que vous voulez qu'on allume la télé? Si on met pas la télé, on met le chat alors.
Ah, mon petit.
C'est un faux chat.
Oui, bien sûr.
À tout à l'heure.
Entre 7h et 9h, vous réveillez, lavez combien de résidents?
Donc on vient de compter, c'était 7. 7 personnes. On a calculé, ça fait 15 minutes par personne. Et on est d'accord pour dire que c'est une moyenne très haute et on est très bien lotis. Donc voilà, il faut s'estimer, être content d'avoir 15 minutes par personne le matin.
Parce que c'est pas le cas ailleurs.
Non. Enfin, ici, on a la chance d'avoir une petite structure à échelle humaine. Tout n'est pas parfait, mais ça c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. À l'école, on nous apprend qu'on doit passer 3/4 d'heure de temps avec une personne pour les soins de nursing. Mais ça, vous demanderez à n'importe qui est passé dans une école, soit être soignant, soit infirmier. On appelle ça une pièce de théâtre.
Parce que ça ne correspond pas à la réalité.
Exactement. On nous apprend quelque chose et la réalité du terrain, elle est tout autre.
Je vais chercher le café.
Là, on est en salle de pause. C'est une petite salle un peu à part qui permet au personnel de se reposer pendant quelques minutes.
Vous continuez d'enregistrer même en salle de pause?
Vous avez filmé dehors?
Ouais.
On vous accompagne. Jocelyn, ça fait combien de temps que vous êtes aide-soignant ici
À l'EHPAD de Chartres, je suis arrivé au mois de mars. Mais ça fait 10 ans que j'exerce ce métier de soignant. depuis que j'ai 20 ans. C'est un beau métier, c'est un beau métier. Mais comme on voit comment il évolue, comment on le fait devenir, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. On est des gens humains, mais on n'a que deux bras. On a deux bras, on a 50 personnes. On est trois personnes, on n'a que six bras pour 50 personnes le soir. On fait ce qu'on peut avec la réalité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on préfère qu'une personne brille de la tête aux pieds, ou est-ce qu'on préfère prendre 30 secondes de plus à lui parler de tout et de rien? Il faut réussir à jongler entre les deux, en fait, tout simplement. On aimerait qu'on puisse dire qu'on fait bien notre travail. On aimerait le dire, mais on ne peut pas le dire. Donc on dit qu'on fait comme on peut.
Pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous faites bien votre travail? À quel moment est-ce que vous avez un exemple à nous donner?
On va dire un truc de concret. C'est quelqu'un qui va, par exemple, avoir des troubles neuro et qui va jouer avec ses selles, par exemple. Ça, c'est le petit grain de sable qui va faire que toute l'organisation de la journée est foutue, en fait.
C'est minuté?
Dans notre tête, on a un minuteur. Le matin, l'après-midi, c'est un peu plus cool. On a un peu plus de temps, on va dire. On fait ce travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une fibre humaine et on aime bien être content de soi en rentrant du travail. Il y a quoi? Il y a trois mois de mars, il y avait des grèves. On a notre directrice, on a notre cadre de santé, qui est tout le monde solidaire. Tout le monde est solidaire. Il n'y a rien qui change. Ça commence à prendre ampleur, les grèves et tout ça, mais c'est très mitigé toujours parce que les gens ont peur de délaisser leurs patients quand ils font grève. Donc c'est une population qui... On a beaucoup de mal à les faire réagir et à les faire... Parce que moi, si ça tenait qu'à moi, mais du jour au lendemain, on ferme tout, on bloque tout... Et on attend de voir qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est pas en faisant qu'on va leur montrer qu'on n'y arrive pas, en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un siècle en arrière, c'était des bonnes sœurs qui faisaient notre métier. Et il y a la culture du oui, en fait, chez la bonne sœur. La bonne sœur vous dira jamais non. Et le soignant, on a un peu gardé cette culture du oui. À toujours faire en sorte que ça marche, il n'y a rien qui va arriver du ciel, en fait. Il n'y a aucun cadeau. Justement, ça marche, pourquoi changer les choses?
Nous sommes devant la chambre 35, la chambre d'André Guéraud, l'un des résidents qui souhaitait nous rencontrer. Monsieur Guéraud ? On peut rentrer ? Bonjour.
Bonjour.
On ne vous dérange pas ?
Pas trop. Je suis en train de lire les nouvelles. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Ça va ?
C'est chez vous, ici ?
Ça fait 7 ans que je suis ici. Les années passent.
Vous avez quel âge ?
89. C'est comme ça la vie.
Vous êtes bien ici ?
Le matin, vous voyez, je m'en vais à pied chercher mon journal. Je marche. Tandis que je marche, ça sera bien. C'est grâce... au sport. J'ai fait du vélo. Et voilà, j'ai des photos que j'ai gagné des courses.
C'est vous, là, sur les photos, vous avez gagné des courses?
Oui.
C'est votre épouse à côté de vous?
Ah non, c'était une jeune fille qui donne le bouquet. Vous savez bien.
Comme au Tour de France.
Voilà. J'en ai gagné 4. Vous voyez? C'est ma vie.
Vous avez de la visite ici?
J'ai mon frère qui vient me voir de temps en temps. Pas tellement. Parce que mes amis, tout ça, j'avais des amis à Bonbon. Mais comme ils sont à 50 km, ils viennent fort, très souvent. C'est ma fille que je vois le plus, quoi.
Ça vous arrive de vous sentir seule?
Des fois, ouais. Mais je prends ma voiture et je vais au parc. Et je vais demander à ma fille, est-ce que tu viens avec moi? Elle vient avec moi, souvent. On fait 2 ou 3 tours du parc et puis hop, je reviens ici. Que voulez-vous? C'est la vieillesse. On ne peut pas toujours être jeune.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Je suis Anaïk Bolzer. Je suis donc aide médico-psychologique, plus communément AMP. Voilà, ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai 30 ans d'ancienneté dans le métier. Mais dans la fonction publique territoriale, ça fait donc 12 ans que je suis embauchée. Mon ancienneté, au moment de ma titularisation, n'a pas été reprise entièrement.
Vous gagnez combien ?
Alors, à l'année, je vais déclarer 1 500 € par mois. Sont compris dedans deux primes qui nous sont octroyées par notre maire en juin et en novembre. Mais il y a certains mois, je touche 1 380 € net.
Pour des horaires décalés, vous travaillez souvent le week-end ?
Un week-end sur trois, les jours fériés, et des horaires décalés, effectivement. Il y a souvent un sentiment de non-reconnaissance de notre travail, évidemment, parce que la reconnaissance passe non seulement par les compliments de nos résidents, la joie de vivre qu'ils peuvent avoir, mais ça passe aussi par notre salaire. Sachant que nous ne toucherons pas notre salaire en entier quand nous serons en retraite, et à quel âge serons-nous en retraite ?
Par rapport à l'investissement, on vous voit arriver très tôt le matin, lever les malades, les porter, pousser de lourds chariots. Cette rémunération qui est quand même très petite, vous la vivez comment ?
Eh bien, je pense que on fait en sorte de l'oublier, sinon on ne pourrait pas avancer. On est vraiment dans ce métier-là parce qu'on travaille auprès de personnes âgées, auprès de personnes invalides, auprès de personnes handicapées. Je pense que c'est en nous. On a besoin de se donner aux autres. On trouve des satisfactions, j'ai envie de dire, dans ce qui nous apporte. Et je peux vous assurer que quand on se couche le soir, on est content d'avoir donné aux autres.
Qui a la main sur vos rémunérations ? C'est l'État pour le point d'indice, parce que vous êtes fonctionnaire. Et c'est le maire pour la partie prime, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Voilà. Donc il faut que les choses bougent.
Quand vous dites qu'il faut que ça bouge, qu'est-ce que vous demandez ?
On pourrait dire que des fois, on a envie d'un peu plus de reconnaissance. On ne demande pas qu'on nous dise merci à longueur de temps, mais qu'il y ait une reconnaissance. Et les agents pensent que la reconnaissance salariale en fait partie. Et l'augmentation du point d'indice serait très, très importante.
Vous avez quel âge, Anaïk ?
Alors moi, je vais avoir 50 ans au mois de février.
Vous vous en sortez financièrement ?
On va voir ce que la vie me réserve. Mais il faut faire attention à tout. On profite de toutes les opportunités, les soldes, les prix bas. On se dit, on a un travail, soyons raisonnables, c'est déjà pas mal. Et on aime notre métier, heureusement.
Que ce soit dans les maisons de retraite publiques comme ici ou dans les résidences privées, les aides-soignants sont souvent très peu payés. Mais il est difficile de régler la question de leur rémunération d'un coup de baguette magique, car le financement des EHPAD est complexe. La partie dépendance est financée par les conseils départementaux, la partie soins est financée par la sécurité sociale et l'hébergement est à la charge des pensionnaires. Augmenter les salaires des aides-soignants est donc surtout une question de volonté politique.
Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrique.
François Ruffin, député France Insoumise à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2018, jour de grève dans les maisons de retraite.
Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenu. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients, nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut longuement oublié sous ses fesses. Souvent, cette vieille femme pleurait. Mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi, pleuraient. C'est une scène ordinaire, Madame la Ministre, dans les hôpitaux et les EHPAD français. Qu'avez-vous à leur offrir ? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale ? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques.
Merci, monsieur le député.
Aux patients de ce pays.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice ?
Ça, Madame Coudray.
Fanny.
Fanny.
Il y a quelques mois, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un plan pour les EHPAD. Figurait notamment la création d'un poste d'infirmier de nuit dans les maisons de retraite. Mais rien sur les rémunérations. Ça vous a déçu ?
Oui, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre les choses plus en profondeur. Il faudrait refondre nos systèmes de financement pour augmenter les rémunérations. Encore faut-il avoir les moyens sur les forfaits que l'on reçoit. Et aujourd'hui, nos forfaits sont faits de telle façon qu'on touche des forfaits en fonction de la dépendance de nos résidents.
Vous êtes d'autant plus financé que vos résidents sont dépendants.
Tout à fait, oui. Avec des formules de calcul, assez savantes, en fonction de ce qu'on appelle le GMP, qui évalue la dépendance plus physique de nos résidents. Et ces modalités ne prennent pas en compte la prévention. Une grosse partie du temps de travail de nos aides-soignantes, notamment, ce sont des actions de prévention. D'emmener les personnes aux toilettes, ça demande du temps, et plus de temps que de mettre une protection. Au niveau des infirmières et des soignants, de mettre toutes les actions en place pour éviter des escarres, notamment, demande du temps et de la vigilance, bien plus que effectivement de faire le pansement et que le résident ait la plaie par la suite. Alors aujourd'hui, si un résident a un escar, une grosse plaie, ça va être pris en compte comme un acte de soin, mais toute l'action de prévention pour l'éviter n'est pas prise en compte.
Donc c'est tout le système qu'il faudrait changer, c'est-à-dire que c'est même la mentalité.
Oui, c'est la mentalité, et puis c'est lié de manière plus générale au système de santé que l'on a en France, qui est très basé sur le curatif et non sur le préventif. Il va très certainement falloir revoir effectivement la vision de l'accompagnement, donc plus dans le préventif à mon sens, et puis aussi décloisonner les financements. On oppose beaucoup aujourd'hui le domicile et l'établissement. Or, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je pense qu'il faut ouvrir l'accompagnement, mettre plus de liens entre les services à domicile et les structures médico-sociales.
Il vous manque combien de postes d'aides-soignants pour pouvoir faire les choses bien, selon vous ?
Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait un poste de plus par jour en semaine et deux le week-end aujourd'hui, puisqu'on est déjà en une organisation dégradée. Et voilà, avec ce type de moyens, on pourrait faire un accompagnement de qualité, enfin de plus grande qualité, puisqu'on fait au mieux déjà aujourd'hui.
Voilà, c'est quoi le bureau ?
Ouais, mon verre, il a coulé.
Oh, il y a des chutes, hein ?
Oui.
Donc là, on est à la cantine. C'est repas espagnol aujourd'hui, sangria et paella. Et donc, il y a des ballons au plafond, des drapeaux espagnols. Et le cuisinier qui cuisine pour 3 maisons de retraite qui s'est déplacé justement pour servir ce repas.
Ce midi, on a fait un gazpacho de tomates fraîches, suivi d'une petite paella Valencia. Après, vous avez une crème catalane.
Là, on est sur un menu de luxe.
En fait, on fait des animations, à peu près 3 animations par an. Aujourd'hui, c'est sur l'Espagne.
Est-ce que vous avez une idée de combien coûte un repas par jour par résident ?
C'est aux alentours de 2,50€.
Par jour par résident ou par repas ?
Non, par repas.
Vous considérez que c'est assez pour les nourrir correctement ?
En tant que cuisinier, je vous dirais que c'est jamais assez, mais bon... On va dire qu'on y arrive. Alors c'est une gestion très stricte, on pèse tous nos produits et c'est du grammage très précis.
C'est important les repas dans les maisons de retraite.
Je pense que pour les retraités, oui, c'est très important. C'est un moment convivial pour eux, c'est un petit moment de plaisir.
J'ai mangé mon gazpacho.
Il était bon votre gazpacho, Christiane ?
C'est-à-dire qu'il faut être habitué. Moi, je ne suis pas habituée à manger ça, mais enfin je disais mange quand même. Pas difficile.
Ah non, faut pas être
difficile. Ben, vous payez, vous ne pensez pas. Vous avez mangé, vous ?
Oui.
Pas encore.
Ah ben, vous allez goûter.
Bonjour, madame.
Je demande pour vous.
Oui, je sais.
Bonjour.
Bonjour, mesdames.
Merci de nous recevoir.
Oh, ben, c'est normal. Prenez des chaises.
Merci.
Voilà.
Christiane, vous avez quel âge ?
J'avais 86 ans au mois d'octobre.
Vous êtes là depuis combien de temps, à la poterie ?
Ça fait 2 ans, passé du 5 mai.
Comment ça se passe pour vous, la vie ici ?
Ça va très bien. Moi, chez nous, je tombais tout le temps. Je tombais sur la faim parce que j'étais toute seule. Mes enfants étaient partis. Alors, j'avais un bracelet, vous savez, pour appeler la nuit. Je les appelais des fois, mais j'oubliais d'appuyer, et puis comment j'appelais, mais trop tard, bien trop tard, quoi. C'est embêtant, ça, de déranger les enfants tout le temps. Puis un jour, je me suis dit, faut que je demande une maison de retraite. Il y en a une à Saint-Jacques, vous savez. Et puis on avait demandé à Chartres, on avait demandé partout, les enfants avaient demandé, quoi. Puis pour trouver une place, c'était pas facile. Et puis, bon, ben, tout d'un coup, à Chartres, ils téléphonent qu'ils avaient un appartement de libre. Ben, je dis aux enfants, ben, faut le réserver.
C'est vous qui avez décidé de venir en maison de retraite.
Oui, c'est ça.
C'est rare que ça soit les résidents eux-mêmes qui décident.
Ben oui, mais vous voyez, moi j'ai décidé parce que ce n'était pas une vie pour les enfants. Puis les enfants viennent me voir, ils sont pas loin.
On voit que vous avez la pêche.
Oui. Les enfants me disent que depuis que je suis là, ben, ça va mieux. Sauf qu'ils me disent que tu as pris du poids. Je dis oui parce que je ne remue pas assez. C'est vrai que de ce temps-là, on ne remue pas assez souvent.
Vous êtes restée coquette.
Ben, bien sûr.
Vous vous maquillez.
Ben, bien sûr.
Vous avez mis des jolies tenues.
Et j'aime bien aussi me changer de tenue. Et puis, bon, ben, c'est pas à cause qu'on est dans une maison de retraite qu'il faut se laisser aller. Vous croyez pas?
Comment se passent vos journées ici?
Oh, ben, t'as d'animation. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a comment Stéphanie, là. Vous la connaissez, Stéphanie?
L'animatrice.
L'animatrice. Eh ben, elle nous fait des animations, puis c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Parce que quand on est décidé, ben, on y va. Si ça ne nous plaît pas, ben, on n'y va pas. Mais moi, je vais aux animations, je chante. Il y a des chants ici. Eh ben, je me suis mise à chanter.
3, 4. La Marisa, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qu'il s'en souvient. De mes dix premières années,
il ne me reste plus rien.
Sans pour recouper, rien que le petit refrain
d'autrefois.
La
Et vous rappelez le on clap là-dedans au niveau de la du palais. Lac, lac, crac, clac, lac, lac. Allez, on y va. Lac, lac, lac. Faites le son en même temps. Claquez la langue sur le palais. Ensemble. Alors, attention, il y en a qui viennent un peu bleus. Il faut respirer.
Ah, je savais pas que ça passait à la télé.
Interception.
À la télé, à la radio.
À la radio.
Sur France Inter.
Oui.
Bonjour.
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 Vous êtes Maria Rouillet?
Oui.
Vous avez 84 ans?
Oui.
Et ce sont vos enfants? Bonjour.
Donc moi je m'appelle Jérôme, je suis le cinquième des enfants.
Bonjour Marie, l'aînée des enfants.
Bonjour Françoise, la deuxième des enfants.
Ça.
Maman comprend tout ce qu'on lui dit, mais c'est vrai que depuis son accident oui, vasculaire cérébral, voilà, c'est difficulté à s'exprimer.
Quand il ne peut pas parler, il rigole des fois, mais pas toujours.
Maman,
oui. Que ça maman a 84 ans. Hein, maman, tu es née en 1933, donc tu vas avoir 85 ans cette année.
Vous venez souvent voir votre maman, tous les trois, comme ça?
Alors, on vient très souvent. Peut-être plus depuis le décès de notre père il y a 2 ans, parce qu'ils vivaient tous les deux ici avant. Voilà, mes papas est décédé il y a 2 ans, donc maman, une maladie a évolué plus rapidement après le décès, donc nous, on est très présents. Voilà, on est sur 5, on est 4 à proximité. Et on vient plusieurs fois par semaine. Et maintenant, c'est vraiment un lieu ici où on se réunit, nous, aussi, pour être avec maman, parce que c'est plus difficile maintenant pour elle de venir chez nous, alors qu'avant elle venait souvent chez nous le dimanche ou le, voilà. Donc on est très présents.
Vous entendez rire il y a un instant. Ça tranche avec l'image qu'on a parfois sur les maisons de retraite où les familles viennent pas à reculons, mais ça peut être une épreuve. Vous, on a l'impression que c'est un moment de retrouvailles aussi.
Non, mais tous les jours ne sont pas souriants et euphoriques. Mais en général, on a beaucoup de plaisir à venir voir maman, évidemment. Ouais. Et puis, sur les maisons de retraite en général, c'est voilà, il y a quand même une image qui est catastrophique et qui n'est pas conforme à la réalité.
À la réalité ici.
À la réalité ici. Ouais, bon, c'est, par hasard, il se trouve que moi, je suis animateur à maison de retraite, dans une autre maison de retraite. Et la réalité là-bas aussi est très positive. Donc,
voilà. Mais pas que positive.
Non, évidemment.
Globalement, ça se passe bien, mais c'est faut pas, il n'y a pas plus de moyens qu'ailleurs. Donc, c'est plein de choses à combler, d'où notre peut-être hyper-présence. On est beaucoup là parce que ben, il n'y a pas beaucoup de présence autour. Il y a des activités, les gens font certainement tout ce qu'ils peuvent. Mais on a compris depuis l'entrée, surtout en dépendance, qu'il fallait être là. J'ose pas imaginer la souffrance morale des gens qui ne peuvent pas parler régulièrement à leur famille parce que le personnel n'est pas présent.
Justement, pourquoi ils ne peuvent pas passer plus de temps, selon vous, les soignants ?
Mais ils ne sont pas assez nombreux. C'est évident, il n'y a pas assez de moyens de mis dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les prisons, c'est toujours le même problème. Dans tous les lieux où les gens sont à résidence, et en plus, d'autant plus quand ils rentrent dans la dépendance totale, s'il n'y a personne autour, mais c'est cruel. Enfin, c'est cruel. Je pense que les gens font au mieux. Moi, je ne veux pas critiquer le personnel. Voilà, c'est pas le but. Mais c'est des choix qui ne sont pas faits au niveau
national. Et c'est pas une infirmière la nuit qui va régler le problème. Non. Ça sert à rien, quoi. Enfin, ça sert absolument à rien, l'annonce qui a été faite par le gouvernement de mettre une infirmière la nuit. Ce qu'il faut ici, c'est de la présence, plus de présence. Bon, après, les familles font partie aussi de la présence. Hein. Mais il faut aussi de la présence.
Tout le monde n'a pas des familles aussi présentes que nous.
Oui.
Nous, on est omniprésents.
Madame Rouillet, bonjour, je viens vous voir. Il y a le spectacle musical cet après-midi. Ça vous intéresse ?
On va amener maman tout à l'heure.
D'accord, vous descendez tous ensemble ?
Ouais.
On va descendre avec elle. On va descendre ensemble.
Très bien.
Ouais, ça marche.
Pas de soucis. À tout à l'heure.
Donc vous êtes Stéphanie, l'animatrice.
Oui, c'est ça.
Et vous allez chercher les résidents dans leurs chambres.
C'est ça, je vais faire toutes les chambres et leur demander du coup s'ils veulent venir participer aux animations.
On va vous suivre.
Très bien.
Il est 15h, c'est l'heure de l'animation avec un couple de chanteurs, Dominique Rousseau et Sandrine Larmé, qui viennent pour un spectacle musical.
Là, si vous me le permettez, bien, c'est un bouquet de fleurs que je vais venir vous offrir à vous, mesdames. Pour vous, voici l'amour est un bouquet. L'Orchestre Philharmonique de Chartres-de-Bretagne. On peut les applaudir, les musiciens.
L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes.
Dominique Rousseau, c'est vous qui êtes intervenu là à l'instant pour cette animation chant et imitation. C'est pas évident de se produire face à un public comme celui-ci ici, au départ.
Alors vous vous doutez bien que non, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut toujours aller en douceur, et puis je dirais que le cœur parle, et en général la magie elle opère parce que les personnes elles sentent bien en fait qu'on est là avant tout pour leur apporter un petit peu de bonheur, même si ça dure 30 minutes, une heure, je pense qu'on a fait à peu près une heure là cet après-midi, c'est super.
C'est un moment de vie, dans une journée parfois un peu longue.
Écoutez, moi je pars du principe qu'un jour, vous, mademoiselle, moi-même, on va arriver à ce moment de notre vie. Et là, entre guillemets, là on ne parle pas de fin de vie, mais c'est une fin de vie active, où on se retrouve dans des endroits, et encore ici aujourd'hui, on est dans un endroit plutôt sympathique, mais il faut aussi se projeter et dire, bah, si on peut faire pour eux, on sera peut-être content que des personnes fassent pour nous aussi dans quelques années. Et moi je suis très attaché à la famille, et quand les aînés nous ont élevés, nous ont tout donné, eh bien à un moment, les enfants, les petits-enfants, ils doivent donner aussi à leur tour.
C'est toi qui sera toujours mon seul amour. Merci. Cet après-midi, il n'y a que des jolies fleurs. Elles viennent d'éclore. Madame, si je puis me permettre, vous êtes magnifique. Vous me faites penser à une dame que j'ai eu la chance de bien connaître et qui fête aujourd'hui, mais je sais que vous êtes beaucoup plus jeune, vous n'avez que 58 ans. Quel est votre prénom, madame ?
Yvette.
Yvette.
Elle mange à ma table.
Mais on s'en fout ! Ah, le sacré René ! Eh bien, Yvette, vous me faites penser à une dame que je trouve magnifique, qui a une carrière extraordinaire. Elle fête aujourd'hui son anniversaire, c'est Madame Lynn Renaud. Vous avez les yeux bleus de Lynn, et vous avez un doux visage comme Lynn. Donc c'est pourquoi je pense à Lynn Renaud en même temps. Eh bien, Yvette, bravo. Mais vous êtes toute belle, madame. Voilà. Dommage que je sois mariée, parce que je pense que j'en aurais épousé une. On ne se connaît pas, mais moi, je vous aime parce que vous, eh bien, c'est vous qui avez construit la France d'avant-hier et celle d'aujourd'hui. Et sans vous, eh bien, les plus jeunes, nous ne serions pas là. Donc, en tous les cas, mille merci, plein de baisers d'amour et passez une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le regard des résidents ?
Je regardais cette grand-mère où j'ai fait le petit clin d'œil par rapport à l'anniversaire de Lynn Renaud. Elle est belle, elle est chic. Elle est bien coiffée, elle est maquillée, mais elle a un visage extraordinaire, quoi. Moi, je trouve ça fabuleux. Bien vieillir, c'est important.
Et ça passe aussi par le regard des autres.
Mais c'est clair. Dans les yeux, il y a l'âme. Donc, quand vous les regardez là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis penché pour les personnes plus en difficulté, pour les voir justement dans leurs yeux. Parce que c'est important, il faut regarder les gens dans les yeux. Parce que dans les yeux, tout passe. Tout passe, tout casse ou tout lasse. Mais en tous les cas, avec eux, rien ne me lasse.
Il est 18h, c'est l'heure du dîner.
Vous me redressez, s'il vous plaît.
Au menu, potage de légumes, sardines à l'huile, pommes de terre persillées, fromage et salade de fruits frais.
1, 2, 3. Ça va ? Bon appétit.
Vous avez fini de manger, madame Tirel ?
Oui, c'est parce qu'on manque d'exercice.
Vous voulez mon bras ?
Ah ben, je veux bien.
Vous voulez bien
puisque...
plutôt le droit ou le gauche ?
C'est pas bon pour les genoux, ça. Ah, le droit.
Le droit ?
Votre gauche. Votre gauche.
Oui, oui, donc votre droit, vous.
Voilà.
Florence, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, à tout à l'heure.
À demain, là.
Oui, à demain.
Vous êtes à quel étage ?
Je suis au premier.
Au premier.
Alors là, je vais vous lâcher le bras parce que je prends le...
la rampe.
Ici, oui. Voilà. Alors là, ils sont très bien, les escaliers, parce que ça brille, et puis il y a la barre noire, comme je suis presque aveugle, donc je me repère là. Ici, on tourne à gauche. Des fois, j'arrive tout de suite, des fois pas. Merci. Alors voilà, l'appartement.
C'est un vrai petit appartement avec coin cuisine, lit.
Oui.
Marcel, ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
6 ans.
Vous avez quel âge ?
Je vais avoir 91 au mois de novembre.
Pourquoi vous êtes venu ici ? Pourquoi vous avez...
J'étais tombée chez moi. Ben, personne ne pouvait m'entendre. J'ai essayé, j'avais tout ce qu'il me fallait, une chaise, une table de nuit et tout, mais je n'ai jamais pu me remettre debout. Alors, il a fallu attendre d'avoir du secours. Heureusement que j'avais donné des clés à une voisine.
C'est à ce moment-là que décision a été prise de vous mettre en maison.
Oui, parce que mes enfants sortent beaucoup et puis ils m'avaient dit il faudra venir à la maison de retraite, surtout qu'ils avaient déjà la mère de mon gendre ici. Donc, c'est pour ça que je suis venue. Puis depuis, ben, j'attends. J'attends la délivrance prochaine, mais quand, je ne sais pas.
C'est une fin de vie qui vous convient ?
Faut bien, on n'a pas le choix. Mon désir était de mourir subitement, puis voilà.
Chez vous ? C'est difficile, j'imagine, de vendre sa maison ou son appartement où on a toujours vécu.
Oui. Surtout que mon mari avait beaucoup travaillé pour que nous ayons ça. Et moi, je mange tout.
Il est 19h. Vous allez faire quoi avant de dormir ?
Pas grand-chose. Je vais regarder peut-être un petit peu la télé. Après, je vais faire une petite toilette et je me déshabille et je m'en vais dans mon lit.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé.
Professeur Régis Saubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de gériatrie au CHU de Besançon. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. Et en mai dernier, le comité a rendu un avis assez sévère sur la façon dont la France traite les personnes âgées.
Oui, notre constat est effectivement assez affligeant. La très très grande majorité des personnes, 80%, se retrouvent dans un endroit, l'EHPAD, où, majoritairement, elles n'ont pas choisi d'être. On leur demande de payer pour cela. Il y a quelque chose donc sur le fond qui ne semble pas répondre aux exigences d'une éthique du respect des personnes. Le propos n'était pas de porter un jugement sur ce qui se passe dans les EHPAD, mais de porter un jugement sur une politique ou une absence de politique.
Dans cet avis, vous écrivez notamment que la concentration de personnes âgées dans les maisons de retraite n'a pas de sens. Vous parlez d'institutionnalisation forcée et même de ghettoisation.
Oui, on employait des mots forts. Avant nous, le contrôleur des lieux de privation de liberté avait fait remarquer que les EHPAD étaient un lieu moderne de privation de la liberté. Eh bien, nous faisons le constat qu'au nom d'enjeux de sécurité, on en arrive à être dans une logique de privation de liberté des personnes. Le constat corrélatif que nous faisons, c'est que l'amélioration de la santé dans notre pays conduit aussi à une forme d'impensé. C'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent vivre de plus en plus longtemps, donc de plus en plus vieilles, mais pour certaines d'entre elles, de moins en moins bien. Et qu'on n'a probablement pas imaginé cette réalité-là il y a 20 ans ou 30 ans. On a pensé que la médecine, entre autres, allait être la réponse à tous les maux de notre société. On en est arrivé finalement à ne pas penser l'accompagnement de la vulnérabilisation qui est un corollaire des avancées techniques et scientifiques de la médecine. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez vous, que vous vieillissez, que vous perdez votre indépendance, il est aujourd'hui très difficile d'avoir un autre choix que celui de l'EHPAD. Et pour une partie d'entre elles, ces personnes âgées ne l'acceptent pas. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans cet avis. Nous avons en particulier beaucoup travaillé sur le taux de dépression dans les EHPAD, d'une part, et sur le taux de suicide en France, qui précède l'institutionnalisation dans les EHPAD. Nous sommes un pays où il est anormal que 80% des personnes dans les EHPAD présentent des signes de dépression.
Mais nous, on a rencontré à Chartres-de-Bretagne beaucoup de résidents qui nous ont dit « J'aurais préféré rester chez moi, mais ce n'était pas possible, j'étais en insécurité, je n'arrêtais pas de tomber, c'est mieux ainsi ».
Alors, effectivement, le maintien à domicile n'est pas toujours possible, quand bien même il y a une marge de progrès, comme je viens de vous le dire, qui nous apparaît essentielle. L'EHPAD n'est pas tout le temps une fatalité. Et donc, il y a un besoin de maintenir les EHPAD qui existent actuellement. Mais plutôt que d'augmenter le nombre d'EHPAD ou des places dans les EHPAD, il s'agirait de penser ce que nous avons appelé, je ne sais pas si la formulation est bonne, mais l'EHPAD hors les murs. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on a des campagnes de construction d'immeubles, il nous semblerait, par exemple, intéressant de devoir, via la loi ou via la réglementation, insérer des places d'EHPAD dans des immeubles qui sont intergénérationnels, en quelque sorte. Et puis, le personnel d'un EHPAD, qu'il intervienne dans un lieu unique ou dans un lieu un peu plus éclaté sur une logique territoriale de proximité, ça nous semble, à mon avis, quelque chose de pensable, possible, souhaitable.
Ça permettrait de remettre les personnes âgées, très âgées, dans la vie commune, en fait, dans notre champ de vision.
Oui, je crois. Je vous dis aussi combien nous avons été très impressionnés par la poussée du sentiment d'indignité de certaines personnes âgées, qui, parce qu'elles sont contraintes d'être là où elles n'auraient pas souhaité, expriment un sentiment d'inutilité, d'indignité, de charge pour autrui. Quand un vieux se sent en trop, et qu'il pense même à mourir, voire qu'il se donne la mort, c'est que nous avons failli à notre devoir d'humanité et d'accompagnement. Vous voyez, je pense qu'il y a tout un regard de notre société à changer sur la vieillesse qui ne doit pas être vue ou entendue comme un problème, mais comme une chance de penser notre propre relativité.
Au mois de juin dernier, Emmanuel Macron a confirmé qu'une loi sera votée avant la fin 2019, afin de répondre à cette nouvelle vulnérabilité sociale qu'est la dépendance. EHPAD, la vie malgré tout, c'était un reportage de Géraldine Allot, prise de son Clémence Bonfils, mixage Benjamin Orgeret, réalisation Violaine Ballet. Une émission à retrouver sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.